Nouvelle année et nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Parmi les nommés, on compte plusieurs personnalités calédoniennes ou occupant des fonctions sur le territoire. Comment va se passer la rentrée pour les élèves du Mont-d'Or Sud ? Une question qui est au cœur des discussions ce midi au rendez-vous de l'association Citoyens Mont-Dorien. Du côté du Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou fait monter la pression. Le Premier ministre israélien attend la liste des otages qui seront libérés par le Hamas. Quitter X ou ne pas quitter X, telle est la question jugée par beaucoup comme toxique pour la démocratie. Ils sont nombreux à appeler à quitter le réseau social, anciennement Twitter. Au chapitre culturel, le succès populaire du film Vaiana 2 avec plus de 7,5 millions d'entrées en France. Un film apprécié aussi en Nouvelle-Calédonie. Du tennis avec les premiers huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Et si Hugo Humbert réalisait l'exploit de battre le numéro 2 mondial Alexander Zverev. Et puis vous entendrez Ariane Klotz, la golfeuse de 26 ans et la première calédonienne à intégrer le LET, l'élite du golf européen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et on ouvre cette édition avec la nouvelle promotion de la Légion d'honneur, celle du 1er janvier 2025. La liste vient de paraître. Dans le décret officiel signé du président de la République, on compte plusieurs personnalités calédoniennes ou occupant des fonctions sur le territoire. Michael Juneski.
Oui, on retiendra entre autres parmi les très nombreuses nominations à l'échelle nationale dans cette traditionnelle promotion civile de la Légion d'honneur que sont élevés au grade de chevalier Jean-Paul Lextrel, le directeur de service de l'Office national des combattants et victimes de guerre, mais aussi Didier Vindatich, l'actuel vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. On citera, concernant encore le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Virginie Debarnier, professeure en sciences de gestion à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et directrice de l'Institut d'administration des entreprises, également donc élevée au grade de chevalier, tout comme Isabelle Lamio, inspectrice d'Académie de l'Éducation nationale en Calédonie. Également dans cette promotion du 1er janvier, Monique Rivière, née Lacombe, qui est présidente de l'Association de protection civile de Nouvelle-Calédonie avec 31 années de service. On retrouve aussi, concernant le ministère de l'Économie et des Finances, David Guyenne, l'actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie, David Lidvan, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie avec 35 années de service, mais aussi Fabienne Vachon, directrice de la trésorerie de la Province Nord après 44 années de service. Je rappelle que la procédure d'attribution de la plus haute décoration nationale se fait en plusieurs étapes. Après examen des propositions ministérielles par le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, présidé par le Grand Chancelier, le grade de commandeur et les dignités de Grand Officier Grand Croix ainsi que les attributions à titre exceptionnel doivent être présentées en Conseil des ministres. Et puis l'ensemble de la promotion est ensuite soumise au Président de la République, Grand Maître de la Légion d'honneur, à qui revient la décision finale d'attribution officialisée par ce décret publié au Journal officiel.
Merci Mickaël. Au chapitre des faits divers maintenant. Cet accident de la route hier soir sur la voie de dégagement est du côté de Boulari, c'est au Mont-d'Or. Un choc frontal qui a bloqué la circulation pendant près de 2 heures. Le conducteur d'un des véhicules bloqué dans son habitacle a été désincarcéré puis pris en charge par les pompiers. Il a été ensuite transféré vers le Médipôle. Le conducteur de l'autre véhicule, légèrement blessé lors de l'accident, a pu repartir par ses propres moyens. L'association Citoyens Mont-Dorien réunit ce midi au Wharf du Vallon d'Or une journée conviviale entre les habitants du Mont-d'Or Sud autour d'un repas partagé et d'un concert. L'occasion de démarrer l'année 2025 de la meilleure des manières et de commencer aussi à préparer les prochaines actions. Florent Perrin, président de l'association Citoyens Mont-Dorien.
Oui, tout à fait. Et puis, on est toujours sous les verrous au Mont-d'Or, donc... Voilà, il faut qu'on puisse un petit peu aussi de temps en temps avoir de l'animation et se retrouver parce que la vie est pas facile avec ses verrous. Et donc voilà, c'est un petit moment de rencontre. De toute façon, c'est dans toutes les conversations des Mont-Doriens, c'est qu'est-ce qui va se passer par exemple pour la rentrée scolaire, parce qu'aujourd'hui le verrou, les horaires sont incompatibles avec une bonne rentrée scolaire, notamment à l'université et au lycée. Donc voilà, on a déjà demandé au commissaire de au moins élargir les verrous, les horaires. Et puis effectivement, les gens vont pouvoir un peu discuter de tout ça. Et puis on va voir quelles actions aussi on va mener, nous, dans les prochaines semaines pour un petit peu mobiliser les gens sur notre problématique, parce qu'il ne faut pas qu'on nous oublie, quoi.
Et la priorité pour Florent Perrin et l'ensemble des membres de l'association Citoyen Monde d'Orien, c'est donc l'allègement des verrous autour de la tribu de Saint-Louis.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h05.
La saison des vide-greniers est ouverte. À quelques semaines de la rentrée, les initiatives vont se multiplier. Et pour ces rendez-vous, des bonnes affaires qui attirent de plus en plus de public. C'était le cas ce dimanche matin à Nouméa au tennis club du Receiving dans le quartier de Motorpool. Le reportage de Michael Juneski.
Très sympathique. Non, c'est très agréable. Ambiance conviviale, familiale, c'est très agréable.
Ça va, ça se passe bien. C'est une bonne alternative pour lutter contre la vie chère.
Je cherche des livres ou bien des passe-poids.
Ah ben oui, ça fait du bien de sortir aussi.
De toute façon, on est toujours surpris. La plupart du temps, on vient regarder, etc. Et puis, on trouve ce qui nous convient. Donc, c'est le principal.
Ça nous manque.
Alors, c'est affaire conclue.
Oui, c'est, oui, ça va, c'est bon. C'est, ah, j'ai trouvé mon bonheur. Hein. Musique, après CD. C'est pour ma famille, pour mes frères là-bas, Marie. Pour, ils ont besoin pour aller à la mer, au champ, tout ça. Et comme ils aiment bien écouter la musique.
Aujourd'hui, je vends, on est en train d'exposer avec ma mère et mes sœurs.
Les vide-greniers, c'est une affaire de famille.
Exactement, on vit toute la maison ensemble parce qu'on est tous en train de se surveiller qui vend quoi. Bah, c'est une très bonne chose. Malgré la fin d'année difficile, on a quand même eu du monde qui est venu, donc on est assez satisfait. Et ça permet aussi de vider les placards pour accueillir 2025 avec l'esprit ouvert.
C'est le deuxième vide-grenier du Receiving que je fais. J'étais là aussi à la première édition et du coup, ben, je vends quelques vêtements, de l'électroménager. On a un petit djembé aussi pour les musiciens.
Ben, un petit peu de tout, hein, du petit bazar de la maison, des affaires pour bébés qui vont plus, des vêtements, tout ça, quoi. C'est ça, on fait des petits prix comme ça, ça part vite. Même nous, on fait un petit tour sur les stands, du coup, puis là, c'est bientôt la rentrée, du coup, c'est bien pour les gosses, quoi.
Je m'appelle Noah Guéno, je suis co-gérant de Sport Passion qui gère le complexe tennistique Anne-Marie Moreau. Après les événements qu'on a connus, on a ressenti le besoin de nos membres et un peu tout le monde de vider leur grenier, de se faire un petit peu de sous comme ça, et donc on a fait la première édition en novembre, et donc là c'est notre deuxième édition. Et on s'est dit qu'on en fera une tous les trois mois. C'est l'idée de regrouper à la fois les gens du club et les gens de l'extérieur, que tout le monde puisse s'y retrouver pour ceux qui ont besoin de vendre et ceux qui ont besoin de trouver de trouver des petites offres intéressantes. Voilà, il y a ça pour eux.
Et notez déjà que le grand vide-grenier de la rentrée à Nouméa est prévu dans 15 jours. Ce sera le dimanche 2 février sur la place des Cocotiers. Au chapitre culturel, le succès populaire du film Vaiana 2 a été au rendez-vous aussi en Calédonie. Les plus jeunes ont notamment été nombreux à se rendre dans les salles pour découvrir la suite des aventures de la célèbre exploratrice du Pacifique, Michael.
Oui, le deuxième volet du dessin animé signé Disney a rempli les salles à travers le monde. Et encore une fois, l'histoire imaginée sur la toile dans un monde d'inspiration océanienne a eu un écho tout particulier pour les Calédoniens. À l'affiche depuis la fin du mois de novembre et durant ses grandes vacances, le film est encore projeté par exemple au Cinécity de Nouméa et Vaiana Le Retour continue d'attirer du public.
C'était cool la chanson. C'est quand Vaiana est tombée dans l'eau.
Enfin nous voilà dans notre paradis.
Vaiana,
l'océan nous réunit.
J'ai trouvé ça bien, c'était bien.
C'était qui ton personnage préféré?
Maui. Maui, c'est le gros là. Oui, j'aime bien la chanson.
Maui?
J'ai droit à Tihou.
Allez plus loin.
Ouais, c'était bien. Je pense que c'était Maui. C'est le copain de Vaiana.
C'est le héros. C'est le demi-dieu.
Super, bah oui, Vaiana, les deux stars du film.
C'est bien pour les petits et les grands, si je comprends.
Exactement.
Bien.
Exactement.
Ah non, pour Vaiana 2, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Les images, ça semblait vraiment réel. C'était vraiment pas comme un dessin animé. Beaucoup d'émotions. Et j'attends quand même le 3 parce que j'ai hâte de voir la troisième.
On sait déjà qu'il va y avoir un 3 alors?
Je pense, oui. Vu la fin, je pense qu'il y aura le 3.
Moi, j'ai vraiment aimé. C'est par rapport au le graphisme. C'était trop bien. Carrément. On espère qu'il y aura un 3, quoi.
Même moi, autant j'ai 21 ans, très très beau dessin animé. Hein.
Préparez-vous à changer de cap.
Un succès donc, le public conquis et Vaiana 2 qui continue de faire des entrées en Calédonie. Douglas Hickson est le directeur du Ciné City à Nouméa.
Vaiana, le retour de Vaiana, puisque c'est Vaiana 2, c'est un film qui était très attendu, c'est un énorme succès, il faut dire. Alors c'est un succès mondial. Vaiana 2 est un succès pour le studio Disney gigantesque. En métropole, il est en 10e semaine. Et il est encore 6e au classement, avec plus de 7 millions d'entrées. Mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il a un écho particulier. Je pense que c'est le cas dans toutes les îles, parce que ce personnage de Vaiana, cette famille que l'on suit, cette aventurière, nous parle beaucoup, nous tous les gens des îles. Parce que, en plus, le regard hollywoodien met très fortement en valeur le courage, la famille, enfin, les danses, la musique, le chant, bien sûr. Ça, ça nous parle beaucoup. Il est encore 6e au box-office la semaine dernière, alors qu'il est sorti fin novembre. Et sur le territoire, on est à presque 40 000 entrées sur l'ensemble des salles du territoire, du nord au sud. Donc c'est dire vraiment, c'est un succès exceptionnel. Bon, les Calédoniens aiment les films qui parlent d'eux, des films qui parlent du Pacifique. Donc je pense que c'est ce qui explique le succès.
Douglas Hickson, le directeur du Ciné City à Nouméa. Vaiana 2 qui attire donc encore les enfants dans les salles, comme au Ciné City de Nouméa, mais aussi au Ciné Drive du Pont des Français, avec des séances familiales encore proposées pour ce mois de janvier. Les samedis soirs au Mont d'Or.
À 12h11, on marque une première pause dans ce journal avant de voir tout ce qui fait l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Léo Fichou.
L'actualité à l'international, oui, d'abord au Moyen-Orient, les premiers échanges de prisonniers vont-ils avoir lieu comme prévu? Nous ne procéderons pas à la réalisation de l'accord tant que nous n'aurons pas reçu la liste des otages qui seront libérés. C'est la mise en garde ces dernières heures du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, fait monter la pression.
Durant les négociations, j'ai établi quelques principes de base. Maintenir la capacité et retourner au combat si nécessaire. Pendant plusieurs mois, le Hamas a exigé que nous nous engagions à l'avance à mettre fin à la guerre, comme condition pour esquisser la libération des otages. Et il a imposé toutes sortes de conditions supplémentaires. Je me suis fermement opposé à ces diktats et ma position a été acceptée. Nous nous réservons le droit de retourner à la guerre si nécessaire, soutenu par les États-Unis. Tous les hauts responsables du gouvernement américain ont témoigné comme un seul homme. C'est le Hamas qui a échoué dans les négociations. C'est le Hamas et pas Israël.
Ce dimanche doit entrer en vigueur l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, donc une trêve de 42 jours durant laquelle le Hamas doit libérer 33 otages contre la libération de 1890 prisonniers palestiniens. Mais le Hamas prend du retard. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
En effet, le Hamas s'était engagé à fournir samedi dans l'après-midi les noms des trois premiers otages qui doivent être libérés. Ça n'a pas été le cas et Benjamin Netanyahou a réagi à ce retard en affirmant qu'Israël ne progressera pas dans la mise en œuvre de l'accord tant que les noms ne lui seront pas communiqués. Mais au-delà des réactions officielles, les médias israéliens rapportent que les dirigeants de l'État hébreu ne s'inquiètent pas outre mesure de ce délai qu'ils attribueraient au chaos qui règne dans la bande de Gaza. Selon la chaîne d'information saoudienne Al-Arabiya, Rabia, le Hamas ne fournira les noms des trois otages que lorsque ces dernières, il s'agit de trois femmes, de trois captives, seront transférées dans un lieu sécurisé. Tout porte à croire donc que cette première étape de l'accord sera mise en œuvre. De fait, Benjamin Netanyahu n'a pas mentionné ce contretemps dans son intervention télévisée diffusée samedi dans la soirée. Le Premier ministre israélien a insisté par contre sur la possibilité pour Israël de reprendre les opérations militaires contre le Hamas en cas de violation des termes de l'accord par l'organisation islamiste. Dans ce cas de figure, a-t-il encore dit, nous bénéficierons du soutien sans faille de Donald Trump et de la nouvelle administration américaine.
Et pendant ce temps-là, l'attente des familles des otages est interminable. Elles étaient réunies ces dernières heures à Paris, place du Trocadéro, pour appeler à la libération de tous les otages. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées, Ava notamment, à l'espoir de voir demain les premiers otages libérés.
On est tous très heureux d'avoir reçu cette nouvelle et très émus surtout. Je me pose surtout la question pour les familles, les otages, dans quel état ils doivent être. C'est horrible et oui, on est tous très inquiets, mais ça reste une avancée.
De nombreuses personnalités publiques et politiques étaient également présentes à Paris, le ministre des Outre-mer Manuel Valls ou encore l'animateur Arthur. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. 4 ans après l'avoir quitté par la petite porte, le président va officiellement prendre ses fonctions ce lundi. Une cérémonie d'investiture à l'intérieur du Capitole sous très haute sécurité. La Marche des Femmes, rebaptisée cette année Marche du Peuple, était organisée à Washington pour dénoncer les menaces pesant sur les droits, comme notamment l'avortement ou encore le climat. Et demain, ce 20 janvier, date d'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de nombreux Français appellent à quitter le réseau social X, anciennement Twitter, désormais propriété d'Elon Musk. Ce dernier qui a été nommé à la tête d'un ministère chargé de l'efficacité gouvernementale par Donald Trump. Une tribune publiée dans Le Monde cette semaine est signée par 87 associations, organisations, syndicats qui annoncent quitter le réseau social, notamment la CFDT, Emmaüs, la Ligue des droits de l'homme, encore Greenpeace France. Une vague de départ également en politique. Toutes ces personnalités reprochent à la plateforme son manque de régulation et l'accusent de représenter un danger pour la démocratie. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Oui, même si le mouvement reste pour l'instant contenu et circonscrit à une partie de la gauche, dernière en date à fermer son compte, l'ancien ministre de l'Industrie Roland Lescure, qui accuse dans Le Parisien le réseau social d'être devenu, je cite, « un lieu de propagande au service d'une idéologie réactionnaire et antidémocratique ». Ce qui est reproché à Elon Musk, c'est à la fois son activisme et ses prises de position contre le wokisme ou en faveur des partis politiques anti-immigration, mais aussi l'absence de régulation sur X et donc la liberté d'expression totale qui y règne. Alors malgré une vingtaine de comptes fermée volontairement, principalement chez les écologistes. La plateforme demeure jusqu'ici le principal moyen d'expression des politiques, y compris de l'Élysée. Et la vague de départ ne fait pas l'unanimité, même à gauche. Olivier Faure souhaite ainsi continuer de défendre ses idées sur X, tout comme Jean-Luc Mélenchon, très actif avec ses près de 3 millions d'abonnés. Benjamin Haddad défend lui aussi le pluralisme. La vie est plus intéressante quand on se confronte à des points de vue différents. Le combat d'idées doit être mené partout où il a lieu, tweet notamment le ministre délégué chargé de l'Europe.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. 12h18, on marque une dernière pause dans ce journal avant de revenir en détail sur toute l'actualité sportive.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du programme, c'est avec le sport. On salue tout d'abord notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une de l'actualité sportive du tennis, et cet exploit français au troisième tour de l'Open d'Australie.
Oui, Gaël Monfils qui a surmonté l'obstacle américain Taylor Fritz, tête de série numéro 4 du tournoi. Gaël Monfils qui, hier après-midi à 38 ans, n'a laissé aucune miette à son adversaire, ou presque, seulement le premier set de concédé pour ensuite remporter les trois autres manches et s'imposer sur un ace 4-7 donc, et après un peu plus de 3 heures de jeu, Gaël Monfils est revenu sur sa victoire et sur son prochain match.
C'est du mal à avoir du recul, hein. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne victoire parce que je trouve que j'ai bien joué, j'ai réussi à être bien stable tactiquement dans ce que j'ai voulu faire tout le match, donc je suis content de la façon dont j'ai joué, donc je suis content du match. C'est match par match, quoi, tu vois, tu bats le 4, là t'arrives, je crois que je joue Shelton, encore une fois, tu pars pas favori, essaie de bien récupérer, essaie de garder ses sensations, essaie de bien travailler dessus. Et Shelton, il joue incroyable, quoi. Il est quoi, il est 14e mondial. Donc en vrai, tu vois, je vais kiffer et je vais penser au match plus tard, quoi.
En 8e de finale, Gaël Monfils qui affrontera donc bien Ben Shelton. L'Américain non pas 14e mais 20e au classement mondial, tombeur de Lorenzo Musetti au tour précédent. La rencontre est prévue demain en fin de journée. Un autre Français jouait hier et malheureusement ça s'est moins bien passé pour Corentin Moutet. Diminué, il s'est incliné en 3-7 face à un autre Américain, Lerner Tien, issu des qualifications et qui enchaîne les belles performances depuis le début de la compétition à Melbourne. Aujourd'hui, on suivra les quatre premiers huitièmes de finale de cet Open d'Australie, dont celui d'un autre Français, Hugo Humbert. Il ne part pas favori, clairement, face au numéro 2 mondial. Un grand défi pour Hugo Humbert. Il affrontera en effet l'Allemand Alexander Zverev. Début de la rencontre aux environs de 18h pour nous.
Du football maintenant, avec la suite ce matin de la 18e journée de Ligue 1.
Et le PSG qui a souffert sur la pelouse de Lens. Mené au score, les joueurs du club de la capitale ont égalisé à la 59e minute de jeu avant de prendre les devants en fin de rencontre à la 86e minute grâce à un but de Bradley Barcola. 2-1, score final pour les Parisiens. Et puis dans le derby breton entre Rennes et Brest, eh bien ce sont les Brestois qui se sont imposés là aussi sur le score de 2-1. Enfin, un match nul ce matin entre Lyon et Toulouse, 0-0, score vierge. Les Lyonnais qui sont toujours 6e du classement et les Toulousains 8e. Pour rappel, hier, Montpellier, lanterne du rouge du championnat, a créé la surprise en battant Monaco 2-1. Hier aussi, Lille s'est imposée sur le même score face à Nice. Parmi les dernières rencontres à venir, Saint-Étienne qui accueillera ce soir Nantes et demain matin Marseille qui recevra Strasbourg.
On parle de rugby maintenant. Les clubs français disputent la 4e journée de la Champions Cup.
Et ça a plutôt mal démarré avec cette lourde défaite du Stade français en Afrique du Sud sur la pelouse des Bulls, 48-7. Le Stade français, bon dernier de sa poule, est donc éliminé. De son côté, Clermont a tremblé, mais c'est finalement imposé contre Bristol, victoire 33-26, ce qui permet aux joueurs de Christophe Furios de se qualifier pour les huitièmes de finale. Déjà qualifié, le Stade Rochelais a enchaîné une deuxième défaite. Les Maritimes se sont inclinés en Italie face à Trévise, 32-25. Et puis le Racing 92 l'a emporté avec le bonus offensif sur les Sud-Africains des Stormers, 31-22. Pourtant, les Racing Men ne sont pas encore sûrs de jouer les huitièmes. Cela dépendra du résultat du match entre les Sale et Toulon demain matin. Autre rencontre à venir, l'UBB qui retrouvera les Sud-Africains des Sharks de Durban et le Stade Toulousain qui fera face à Leicester. Et puis Castres ira affronter les Saracens.
Et puis un mot de handball pour terminer ces pages nationales internationales. Les Bleus sont toujours invaincus dans le début du championnat du monde.
Oui, après avoir battu le Qatar 37-19, puis le Koweït 43-19, les Bleus ont réussi la passe de 3, sérieux et appliqué. Ils ont nettement dominé l'Autriche, un adversaire pourtant bien plus coriace que les deux premiers. Victoire de l'équipe de France 35-27, ce qui permet aux joueurs de Guillaume Gilles de terminer à la première place de leur groupe.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saramea, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Et parlons de golf maintenant avec Ariane Klotz, la Calédonienne qui intègre cette saison l'élite du golf européen, le Let Ladies European Tour, Michael.
C'est la première Calédonienne à réaliser cette performance et donc à jouer à ce niveau-là. À 26 ans et avant de débuter cette nouvelle saison, la golfeuse formée à la Wingui, à Boulou Paris, est revenue quelques semaines sur le territoire. Des vacances sportives, un retour ressourçant pour Ariane Klotz.
La météo française, là où je suis basée à Lyon, c'est vraiment pas la meilleure en ce moment. Du coup, pour jouer au golf, c'est sûr que être à la maison en Calédonie, j'ai eu peut-être 3 jours de pluie. Donc c'était bonheur de pouvoir jouer en polo et en jupe à nouveau, de revoir les copains sur des golfs et tout. Et puis se ressourcer à la maison, quoi. Ça fait toujours du bien de rentrer, repasser par la maison. On le sait, on a besoin du soleil, donc, donc c'est pas mal de faire un tour par la Calédonie à cette période de l'année. C'est toujours du bien, je me sens prête à repartir. J'ai envie de reprendre la compétition, en fait, mais je sais que d'avoir vu la famille, les amis et l'île, en fait, ça fait beaucoup de bien.
Une jeune femme ressourcée qui va très vite reprendre la compétition. Le premier tournoi des 30 prévu cette saison pour Ariane Klotz aura lieu le premier week-end du mois de février au Maroc, avant un retour dans la région Pacifique en mars avec 3 tournois en Australie. Une saison chargée pour la Calédonienne qui a déjà beaucoup d'ambition.
Prendre du plaisir, c'est important parce que ça reste, c'est quand même ma passion. Après, j'en ai fait mon métier, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ça reste un jeu et un sport. Et si on arrête de prendre du plaisir, c'est jamais bon signe. Donc profiter de cette nouvelle vie et de toutes les nouvelles découvertes, mais aussi performer. Dans mes objectifs de l'année, j'ai l'intention de gagner un tournoi et de conserver cette carte en fait, sur la première division. Donc il faut finir top 50, grosso modo, des filles sur le LED.
Conserver sa place dans la première division européenne reste donc son objectif principal, mais Ariane Klotz voit aussi plus loin, intégrer le LPGA, la première division américaine, et représenter la France, pourquoi pas, aux Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles.
Merci beaucoup Mickaël, 12h25, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve à 13h pour le dernier flash de la mi-journée. À tout à l'heure.